Vous êtes sur RTL.
7h41, excellente journée à vous tous qui écoutez la première radio de France. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le président directeur général du groupe Kering, François-Henri Pinault.
Et c'est vrai qu'on vous entend rarement. Merci beaucoup François-Henri Pinault d'être ce matin sur RTL pour évoquer entre autres votre fondation fondée donc contre les violences faites aux femmes. Vous êtes à la tête, je le rappelle, du groupe Kering, géant du luxe, la mode, la joaillerie, l'horlogerie, on y reviendra tout à l'heure. Mais vous êtes là ce matin parce que vous fêtez les 10 ans de la fondation Kering qui se bat contre les violences faites aux femmes. Il y a 10 ans, François-Henri Pinault, il n'y avait pas encore eu MeToo. Il y avait encore d'ailleurs beaucoup de déni collectif et individuel autour de cette cause. En 2008, vous êtes pionnier. Pourquoi vous vous lancez dans ce combat? D'ailleurs, qui peut-être vous a inspiré? Qui vous sensibilise?
Écoutez, c'était une conjonction de choses. À l'époque, il y a un peu plus de 10 ans, 2006 exactement, je prends la décision de transformer mon groupe, qui était un conglomérat avec beaucoup de différents métiers, en un groupe de luxe spécialisé. Donc je démarre ce mouvement-là et j'ai cette conviction ancrée en moi, alors c'est sans doute un élément d'éducation en ce qui me concerne, que les entreprises doivent avoir une raison d'être qui va au-delà de leur sphère économique. C'est très important pour moi et ça doit en plus résonner avec la personnalité de l'entreprise. Et dans cette transformation, le groupe qui était PPA à l'époque et qui est devenu Kering devenait un groupe très féminin, avec plus de 60% de femmes, s'adressant essentiellement à une clientèle féminine. Et puis, cette conjonction de choses, c'est aussi la rencontre avec ma femme en 2006.
Votre femme, Salma Hayek, l'actrice américano-libano-mexicaine.
Tout à fait.
Ouais.
Et qui est engagée depuis plus de 20 ans dans cette cause, alors aux États-Unis, au Mexique essentiellement, et qui me fait prendre conscience de la réalité de ce phénomène de la violence sur les femmes, que j'imaginais relativement loin de moi, dont je me rends compte que c'est non seulement à l'autre bout du monde, mais c'est aussi de l'autre côté du palier, que c'est toutes les classes confondues, c'est vraiment partout, et surtout qu'il y a une sorte d'omerta, on n'en parle pas.
Elle en parle d'ailleurs, hein, votre femme, c'est une militante, elle a fait une lettre à Weinstein il y a un an, qui est restée dans les annales pour ceux qui l'ont pu la lire, elle est là-dessus,
c'est son combat.
Depuis
des années, et puis toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et donc je découvre cette cause, je transforme mon groupe et je dis un groupe comme le mien est très légitime à embrasser cette cause et à la faire bouger.
Autrefois, vous savez, les entreprises ou les personnes très riches avaient leur œuvre. Après, il y a eu la philanthropie, le mécénat. Souvent, on fait ça pour soigner l'image d'une entreprise, d'une marque. Il y a de ça chez vous?
Ah non, du tout. Non, non. Franchement, et d'ailleurs, quand je fais ça, on me dit, mais vous êtes certain, vous allez devenir un groupe de luxe. Est-ce que la violence sur les femmes, c'est un vrai sujet pour un groupe de luxe? C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que c'est une cause qui a besoin d'être aidée. C'est une cause dont on parle pas assez et sur lequel même un groupe de taille relativement modeste à l'échelle mondiale comme le mien peut vraiment faire bouger les choses. Et ça suffit. Encore une fois, on ne peut pas se contenter de rester dans notre sphère économique. Les entreprises ont des responsabilités et elles
c'est
se doivent...
C'est pas du marketing, c'est pas...
Non, ça n'a rien à voir avec ça.
Combien de femmes ont bénéficié d'une action de la Fondation depuis 10 ans?
Oh là là, plusieurs milliers, puisqu'on travaille avec des ONG partout dans le monde, que l'on aide sur cette cause, à la fois en termes de prévention, en termes d'accueil des victimes de violences. Donc il y en a eu en Europe, en Asie, aux États-Unis, mais plusieurs milliers.
Une femme ou une situation dans laquelle des femmes étaient impliquées qui vous ont le plus impressionné? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit?
Écoutez, j'ai découvert aussi au travers d'ailleurs d'un moment de sensibilisation sur ce film qui s'appelait Fleurs du désert, de ce qu'étaient ce qu'on appelle les pratiques traditionnelles néfastes. Pour être très clair, l'excision. Découvrant que c'est un phénomène sur le territoire français, on estime entre 3 et 5 000 jeunes filles qui sont victimes de ces pratiques-là aujourd'hui en France. Et je rencontre à cette époque, où on fait la promotion de ce film, un médecin chirurgien qui fait la réparation chirurgicale donc de ces victimes. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Et là, on a décidé d'aller relativement loin et on a été aux côtés du docteur Radha Atem pour créer la Maison des Femmes à Saint-Denis, qui s'occupe à la fois, qui accueille ces femmes, qui s'en occupe, alors pas que les femmes victimes de pratiques traditionnelles, mais aussi victimes de violences au sens large. Et hier soir, nous fêtions les 10 ans au siège de Kering. Je parlais avec
de la Fondation,
la Maison des Femmes, ils ont accueilli 25 000 femmes sur les 18 derniers mois. C'est vous dire de l'ampleur du phénomène. Et vous en parlez tout à l'heure, en 2017, 97 000 femmes en France ont été victimes de viols ou de tentatives de viols en France.
Il y avait il y a eu d'ailleurs encore plus de femmes victimes de violences conjugales en 2017 qu'en 2016. Et les droits des femmes régressent. J'allais dire, c'est pour employer un mot à la mode, c'est contre-intuitif. Il y a des progrès dans nombreux domaines scientifiques, technologiques. Or, aux États-Unis, par exemple, sous l'ère Trump, c'est impressionnant. Dans l'Ohio, une loi pourrait rendre l'avortement passible de la peine de mort. Comment vous expliquez cette régression partout, s'agissant des droits des femmes? C'est la religion? C'est le poids de la religion?
Non, je pense qu'il y a un problème éducatif. J'en parlais hier soir. Je souhaite que la Fondation, dans les mois et années qui viennent, s'occupe aussi de la sensibilisation au niveau des hommes. Il y a un problème au niveau des jeunes hommes, voire des jeunes garçons, sur la perception des femmes, du statut des femmes. Et je pense que là, ça se passe au niveau éducatif. Et je pense que en France, par exemple, que dans les programmes de l'éducation nationale, il devrait y avoir aujourd'hui des éléments concernant la diversité des genres. Sensibiliser les jeunes enfants à cette
l'égalité des sexes,
évidemment,
dans les programmes scolaires.
Je pense.
Vous en avez parlé avec le ministre de l'Éducation?
Pas encore, mais c'est quelque
mais
chose
c'est quelque
à laquelle on va s'attacher.
Vous voudriez lui suggérer
oui, tout à fait.
De faire de l'éducation aux jeunes hommes, aux jeunes garçons, sur le respect des droits des femmes. Ça commence tout petit, c'est ce que vous dites, c'est une question d'éducation. Je parlais de la religion, tout de même, vous qui connaissez bien les États-Unis, vous êtes impressionné ou pas par la façon dont les femmes aujourd'hui se plaignent d'être traitées de façon générale, dans le débat public?
Moi, je ne suis pas surpris, parce que, comme je le disais tout à l'heure, par ma femme, je connais un peu la situation aux États-Unis. En particulier, on s'est occupé, nous, des violences sexuelles sur les campus américains. Une jeune fille étudiante sur sept aux États-Unis est victime de violences sexuelles pendant leur vie universitaire. Une sur sept. C'est énorme. C'est énorme.
Mais sur sept?
Oui, dans les universités, dans les facs américaines. Et donc c'est un des axes sur lesquels on a beaucoup travaillé, mais c'est un vrai fléau. Et il y a là aussi une omerta à la fois des universités elles-mêmes. Et heureusement, le mouvement MeToo qui a déclenché, en un an à peu près, il y a pratiquement 25% de plaintes supplémentaires, parce que c'est aussi le problème, celles sont les victimes. Est-ce que les victimes vont oser faire savoir qu'elles ont été victimes? Ça commence à bouger.
Oui, et en France en particulier, où il y a une plateforme qui a été présentée hier par le gouvernement, qui permet aussi de faire des signalements en un clic, sans avoir à porter plainte, ce qui est toujours très impressionnant et parfois dissuasif. Vous avez dit 60% de femmes dans votre groupe,
64. C'est ça ?
64%. Sur combien de salariés ?
Environ, à la fin de cette année, on devrait être 32 000 à peu près.
Quand il y a plus de femmes que d'hommes dans un groupe, les femmes restent quand même moins bien payées en moyenne que les hommes?
Non, en tout cas dans mon groupe, c'est absolument interdit. Alors je ne peux pas garantir que ce soit le cas partout. On vient de se doter d'un système informatique qui va nous permettre de s'assurer que c'est la réalité. Mais si aujourd'hui j'ai quelqu'un qui s'amuse à faire des discriminations salariales entre hommes et femmes à qualification identique, c'est la porte.
Vous avez repéré la loi que vient de présenter Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, sur l'égalité salariale? Elle impose la transparence sur les écarts, la mesure des écarts et le rattrapement progressif. Vous, la transparence, la mesure des écarts, c'est connu à votre groupe?
Oui, bien sûr. Tous les ans, on vérifie.
Je peux savoir ce que gagne mon homologue masculin si vous m'embauchez? Ce qui ne sera pas
entre les salariés, peut-être pas, mais en tout cas, il y a une transparence entre toutes les maisons du groupe. Par exemple, on a un même outil qui s'appelle Workday, sur lequel on a une transparence absolue des conditions salariales et surtout une comparaison très, très, très fine des postes les uns avec les autres. Parce que c'est aussi la problématique, c'est est-ce que ce poste-là est identique réellement à celui-ci? Et donc c'est aussi la problématique qui se pose.
Exactement.
Là, on a aujourd'hui un outil qui va nous permettre de vérifier ça de façon très, très, très fine et de pouvoir éradiquer enfin ce phénomène.
Vous l'avez envoyé au ministère du Travail ou pas? Parce que c'est effectivement là-dessus qu'on travaille aussi en France, à l'échelle de la loi, c'est de donner des outils qui permettent de mesurer ça.
Non, bien sûr. Et vous savez,
de façon fine.
Une des raisons des écarts salariaux entre hommes et femmes, ce sont des moments de vie comme les congés maternité. C'est une des choses quand on s'est commencé à... Parce que la cause des femmes, ce n'est pas uniquement la lutte sur les violences dans le groupe, c'est aussi le statut des femmes au travail. On travaille sur ce sujet-là de façon très active depuis 10 ans. Et sur ce domaine des écarts salariaux, il faut savoir que la situation, il y a 10 ans, quand il y avait une hausse collective des salaires, si une personne était en congé maternité, elle n'en bénéficiait pas. On ne le savait pas. Ça a été rectifié immédiatement en faisant bénéficier toutes les personnes en congé maternité des hausses salariales.
Si elles sont absentes, elles bénéficient.
C'est pour ça que ce n'est pas forcément des raisons proactives de discrimination des genres qui prévalent pour ces écarts, mais c'est aussi des situations mal gérées. Les entreprises doivent s'adapter à la réalité de la vie des femmes et pas l'inverse. Or ça, ce n'est pas tout à fait le cas.
C'est pas tout à fait le cas. Je voudrais qu'on aille vite parce que le temps passe. L'industrie du luxe, l'essentiel de votre chiffre d'affaires, vous le faites hors de France, François-Henri Pinault.
Oui, on fait 95% de chiffre d'affaires en dehors de France. Oui.
En particulier en Chine. Vous êtes très dépendant des marchés asiatiques. Vous avez une clientèle, j'ai vu ça chez Gucci, qui surperforme chez vous, qui est une marque qui a fait une croissance de chiffre d'affaires considérable. Vous dites que 56% de la clientèle de Gucci, par exemple, est trentenaire. Comment vous faites acheter par des trentenaires des produits aussi chers que les vôtres?
Alors, il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène asiatique et il y a un phénomène occidental. Parce que c'est vrai aussi sur les trentenaires occidentaux. Il y a d'abord le phénomène asiatique, où vous savez, en Chine, cette politique de l'enfant unique qui a prévalu pendant de très nombreuses années, qui fait qu'aujourd'hui, ces trentenaires bénéficient d'un flux monétaire des adultes, que sont les parents, les grands-parents, les parents de chacun, qui est énorme, et qui se déverse sur très peu d'individus, parce que très souvent, ce sont des enfants
donc
uniques.
Donc, ils ont une grosse épargne familiale.
Alors, il faut savoir que en Chine, l'épargne en Chine, c'est 40% du PIB. Et c'est une épargne qui est contrôlée par l'État. Donc, une des rares façons de pouvoir consommer, c'est de la déverser sur vos enfants. Et donc ça a généré dans tous les secteurs, et dans le secteur du luxe en particulier, un boom sur les achats de luxe par cette tranche d'âge très important. En Occident, c'est une réallocation des ressources sur des catégories de produits qui n'étaient pas les mêmes quand, par exemple, j'étais trentenaire. Aujourd'hui, vous avez des jeunes de 20-25 ans où l'achat d'une voiture, ce n'est pas le sujet, où le fait d'avoir son appartement le plus vite possible n'est plus le sujet non plus. En revanche, l'expression de soi, l'expression de sa personnalité, de son individualité, au travers de la façon de s'habiller en particulier, est quelque chose qui a pris beaucoup d'importance, si tant est que la progression créative soit très forte.
Si tant est que la création, effectivement, suscite un acte d'achat. Mais pardonnez-moi, François-Henri Pinault, vous parlez du luxe, vous êtes un géant du luxe, un des secteurs leaders de l'économie française. On parle de ceux qui ont du pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez vos compatriotes manifester avec des gilets jaunes pour des problèmes de fin de mois?
Écoutez, d'abord, j'étais très surpris de l'ampleur du mouvement, mais je comprends. Si on oppose la transition écologique, qui est une absolue nécessité, il faut quand même le rappeler, au pouvoir d'achat, c'est voué à l'échec. On ne peut pas faire cette transition au détriment du pouvoir d'achat des plus modestes. Ça, c'est tout simplement pas possible.
Il y a une maladresse dans la présentation ?
Je pense que l'exécution de cette transition est par des phénomènes externes, notamment la hausse du prix du pétrole au moment où on veut taxer le diesel un peu plus. Effectivement, c'est malencontreux, mais il aurait fallu réagir très vite et dire, attendez, reprenons les choses. Trouvons une solution, mais ça ne peut pas se faire au détriment. Donc je comprends que les gens réagissent comme ça, parce qu'effectivement, vous pouvez pas, on est déjà dans un pays où les inégalités sont fortes. Si en plus les inégalités augmentent et que vous n'avez pas de perspective de pouvoir progresser socialement et que votre pouvoir d'achat mécaniquement baisse, c'est insupportable.
Donc,
mais je pense que l'ouverture du dialogue qui a été annoncée, le fait de reprendre un peu la façon dont cette transition écologique va être exécutée, parce qu'elle n'est pas remise en cause, il ne faudrait surtout pas la remettre en cause. Mais c'est important qu'elle ne se fasse pas au détriment du pouvoir d'achat ou au détriment. Opposer la transition écologique à la performance des entreprises, c'est aussi une grave erreur. Si c'est ça, ça ne se passera pas. La transition écologique ne se fera pas sans les entreprises.
Vous vous êtes engagé là-dessus, mais c'est vrai que plus fondamentalement, vous l'avez dit, les inégalités augmentent. Les inégalités augmentent. La pauvreté recule dans le monde, mais les inégalités augmentent. Quelle est la responsabilité des entreprises? Est-ce qu'elles partagent suffisamment? Est-ce que d'abord c'est de leur responsabilité ou est-ce que c'est l'État qui redistribue insuffisamment? Est-ce que ce sont les entreprises qui partagent suffisamment?
Le rôle des entreprises, c'est de donner les moyens à tout un chacun de pouvoir progresser socialement.
À tout
et donc,
à chacun.
De pouvoir progresser professionnellement. Et dans une progression de carrière, vous avez une progression de votre pouvoir d'achat. Ça, c'est de la responsabilité des entreprises, de faire progresser vos collaborateurs, d'avoir une société qui progresse, qui croit, et au travers de
ça. Ça, c'est la responsabilité. Est-ce qu'elle est vraiment assumée aujourd'hui? Est-ce que le capitalisme mondialisé n'est pas dévoyé en générant des inégalités qui augmentent?
Non,
entre les
pas,
plus
non.
riches, les plus riches.
Et... Non, parce que si c'était vraiment le but du capitalisme, ça se terminera relativement vite. Les entreprises aujourd'hui ont des responsabilités très fortes, en particulier dans le domaine social. Et vouloir séparer l'économique du social, pour moi, c'est une grave erreur. Le social est dans l'économique et vice-versa. Et ces responsabilités-là sont intriquées au niveau de l'entreprise. Donc une entreprise qui veut pouvoir croître et se développer doit le faire avec aussi une progression sociale de l'ensemble de ses salariés. Sinon, ça n'arrivera pas.
C'est pas toujours le cas. François-Henri Pinault, encore un petit mot sur les Gilets jaunes. Vous avez des magasins sur les Champs-Élysées. Ils ont été touchés ou pas?
Oui, oui, certains magasins au début de l'avenue Montaigne et dans l'avenue Montaigne ont été impactés par les manifestations de dimanche dernier.
Le magasin Gucci. L'image de la France, ça vous préoccupe ou c'est pas le sujet?
Oh, c'est pas le sujet. Je pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui de dialogue et de retrouver des solutions qui soient acceptables par tout le monde. Comme j'ai dit, sinon on n'y arrivera pas. Mais c'est vrai que les violences qui ont accompagné ces manifestations, qui ne sont pas le fait des Gilets jaunes hein, d'ailleurs, pour l'image du pays à l'étranger, effectivement, c'est assez incompréhensible pour les étrangers de comprendre ce qui se passe.
Un conseil à Emmanuel Macron?
Oh non, je ne me permettrai pas, non.
Aucun? Non.
Non, non, mais je lui fais confiance.
Vous lui faites confiance. Merci beaucoup, François-Henri Pinault, d'avoir été ce matin sur RTL.
François-Henri Pinault qui veut maintenant développer le travail de la Fondation Kering hein, contre la violence faite aux femmes, auprès des hommes et en particulier des jeunes garçons. Et puis sur la crise des Gilets jaunes, on notera cette remarque. On ne peut pas faire la transition écologique au détriment du pouvoir d'achat des plus fragiles. Merci à tous les deux. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site RTL.fr. Et pour nous, dans un instant, c'est le journal de 8h sur RTL. Merci de votre fidélité.